Aujourd'hui encore, la France est le refuge de la culture la plus intellectuelle et la plus raffinée qu'il y ait en Europe, et reste la grande école du goût. Mais il faut savoir la découvrir, cette France du goût. Qui en fait partie prend soin de se tenir cachée. Ils sont peu nombreux, et dans ce petit nombre, il s'en trouve encore peut-être qui ne sont pas très solides sur jambes, soit des fatalistes, des mélancoliques, des malades, soit encore des énervés et des artificiels, qui mettent leur amour-propre à rester caché. Ils ont ceci en commun qu'ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre la bêtise déchaînée et la gueulerie bruyante du bourgeois démocratisé. Car ce qui est au premier plan, c'est une France abêtie et devenue grossière. Cette France qui, tout récemment, aux obsèques de Victor Hugo, s'est livrée à une véritable orgie de mauvais goût et de contentement de soi. Un autre trait encore est commun aux hommes de la France du goût. Une volonté bien résolue de se défendre de la germanisation intellectuelle et une puissance incontestée à triompher dans cette lutte. Dès à présent, je crois bien que dans cette France intelligente, qui est aussi une France pessimiste, Schopenhauer est plus chez lui qu'il ne le fut jamais en Allemagne. Je ne parle pas de Henry Heine, qui a passé depuis longtemps dans la chair et le sang des lyriques parisiens les plus délicats et les plus précieux, ou de Hegel qui, dans la personne de Taine, c'est-à-dire du premier des historiens vivants, exerce une action souveraine, presque tyrannique. Quant à Richard Wagner, plus la musique française s'adaptera aux exigences réelles de l'âme moderne, plus, on peut le prédire, elle wagnerisera. Elle le fait déjà bien assez. Il y a cependant trois choses qu'aujourd'hui encore les Français peuvent exhiber avec orgueil comme leur patrimoine propre, comme la marque indélébile de leur ancienne suprématie de culture sur l'Europe, en dépit de tout ce qu'ils ont fait ou laissé faire pour germaniser et démocratiser leur goût. La première, c'est la capacité de passion artistique, d'enthousiasme pour la forme. C'est cette faculté pour qui a été créée, entre mille autres, l'expression « l'art pour l'art ». Elle a toujours existé en France depuis trois siècles, et grâce au respect qui inspire le petit nombre, elle y a toujours rendu possible l'existence d'une littérature de choix, une sorte de musique de chambre de la littérature qu'on chercherait vainement dans le reste de l'Europe. La seconde supériorité des Français sur l'Europe, c'est leur vieille et riche culture morale, grâce à laquelle il existe en moyenne, même chez les petits romanciers des journaux et chez n'importe quel boulevardier de Paris, une sensibilité et une curiosité psychologique dont les autres, les Allemands par exemple, sont incapables, dont ils n'ont même pas idée. Les Allemands n'ont pas eu ce qu'il fallait pour en arriver là. Ces quelques siècles d'active éducation morale que la France a pris la peine de se donner et partir de là pour qualifier les Allemands de naïfs. C'est leur faire un mérite de ce qui est un défaut. Voilà qui forme un parfait contraste à l'inexpérience de l'Allemagne et à son innocente abstention de la volupté psychologique. Le mortel ennui des relations entre Allemands est assez proche parent de cette innocence. Et voici qui exprime parfaitement la curiosité naturelle aux Français et leur richesse inventive dans ce monde d'émotions délicates. Je veux parler d'Henri Bayle, ce précurseur et ce divinateur admirable qui, d'une allure à la Napoléon, parcourut son Europe. Plusieurs siècles d'âmes européennes démêlant et découvrant cette âme, il fallut deux générations pour le rejoindre, pour deviner quelques-unes des énigmes qui l'obsédaient et le ravissaient. Lui, cet étonnant épicurien, ce curieux interrogateur qui fut le dernier grand psychologue de la France. Reste, enfin, une troisième supériorité. Il y a au fond de l'âme française une synthèse presque achevée du Nord et du Midi. Les Français doivent à ce trait de leur nature de comprendre bien des choses et d'en faire bien d'autres auxquelles l'anglais n'entendra jamais rien. Leur tempérament, qu'à des périodes régulières le Midi attire ou bien repousse, leur tempérament que de temps à autre inonde le sang provençal et ligure, les met en garde contre l'horrible gris-gris du Nord, contre les idées fantômes sans soleil, contre l'anémie. Ils ignorent notre maladie du goût à nous autres Allemands, qu'en ce moment même on traite résolument en nous ordonnant force fer et force sang, je veux dire de la grande politique, traitement dangereux, dont j'attends encore, dont j'attends toujours les effets, mais toujours sans espoir. À présent encore, on sait en France pressentir et deviner la venue de ces hommes rares et difficiles, à qui il ne suffit pas d'être d'une patrie et qui savent aimer le Midi dans le Nord dans le Midi, et l'on sait aller au-devant de ces méditerranéens nés, de ces bons Européens. C'est pour eux que Bizet a écrit de la musique, Bizet le dernier génie qui ait vu une nouvelle beauté et une nouvelle séduction, Bizet qui a découvert une ère nouvelle, le Midi de la musique.